J'avais fait distribuer un papier que Léo s'est chargé de mettre sur les sites. Bien évidemment, dans cette intervention, je ne pourrais pas résumer en détail l'ensemble des arguments et les contenus de ces papiers rédigés pour ces séminaires. Mon souci sera plutôt de présenter à grands traits certains volets du programme de recherche autour de l'hypothèse du capitalisme cognitif, et cela avec un souci important. Ce souci consistant à essayer de débarrasser le terrain d'un certain nombre de malentendus et d'incompréhensions suscitées par des lectures parfois hâtives de cette grille de lecture. Dans cette perspective, je me propose d'articuler cette intervention en deux parties. Dans une première partie, je vais rappeler tout d'abord très rapidement les questionnements à l'origine de l'hypothèse du capitalisme cognitif et quelques éléments méthodologiques et théoriques qui permettent de mieux cerner la construction de cette hypothèse de lecture. Dans une deuxième partie, alors, je vais me consacrer à caractériser, à l'aide de quelques faits stylisés, l'origine conflictuelle, l'essence, les enjeux et aussi les alternatives liées à la mutation actuelle du capitalisme, une mutation qui s'est produite depuis la crise du modèle fordiste, et qui contient en germe, disons, à mon sens, disons, du moins, la possibilité de déboucher sur un modèle de société et un modèle de développement alternatif. Je vais donc en venir au premier volet. Donc, le programme de recherche autour de l'hypothèse du capitalisme cognitif est parti d'un constat, qui concerne une crise qui se prolonge depuis plus de 30 ans déjà, en démontant toute hypothèse concernant une recomposition néo-fordiste ou post-fordiste du capitalisme. Je vais donc commencer cet exposé par une question qui, en quelque sorte, peut résumer les points de départ de la réflexion autour de l'hypothèse du capitalisme cognitif et qui a été aussi le titre d'un ouvrage collectif. Ces questions étaient « Sommes-nous sortis du capitalisme industriel ?» c'est-à-dire « Où nous allons ?» c'est-à-dire plus précisément « Est-ce que les économies d'ancienne industrialisation sont en train de opérer la transition vers une nouvelle configuration historique du capitalisme qualifiée justement de capitalisme cognitif. Selon le chercheur de Matisse et Isis, la réponse à cette question est plutôt oui, même si cette transition est loin d'être achevée, et peut-être heureusement, elle se heurte à des résistances sociales, ainsi que des limites structurelles, des limites qui résultent en partie de la difficulté que le capital rencontre en transformant en marchandises les biens connaissances, mais des limites qui résultent aussi de la difficulté à restaurer ce qu'on peut appeler une mauvaise dialectique lutte-développement. Quoi qu'il en soit, on peut affirmer qu'à la suite de la crise du fordisme, les économies des pays capitalistes avancés sont confrontées à une métamorphose majeure du rapport capital-travail et des formes de la division du travail. Une métamorphose qui, sur bien des aspects, peut être comparée pour son importance à celle qui a connu le capitalisme dans la transition qui a conduit entre le XVIIIe et le XIXe siècle du capitalisme mercantiliste vers le capitalisme industriel. Cette trasformation trouverait notamment à son origine la diffusion et le rôle moteur du savoir, lié à la hausse du niveau moyen de formation et à la montée du contenu intellectuel et immatériel du travail. En fait, la crise sociale du fordisme aurait déterminé une crise tendancielle de ce qu'on appelle la logique de la subsumption ou de la soumission réelle du travail au capital, du moins, du point de vue du procès de production. Cette crise si manifeste par une rupture par rapport alla dynamique longue, alla polarisation des savoirs, proprio al capitalisme industriel, e si traduit par l'affirmation d'une nouvelle prépondérance qualitative des connaissances vivantes incorporées au travail par rapport au savoir formalisé incorporé dans les capital fixes et dans l'organisation des firmes. C'est donc dans l'affirmation de cette nouvelle hégémonie du savoir du travail vivant par rapport au savoir mort du capital qui se trouve, à mon sens, l'ossature centrale de l'hypothèse du capitalisme cognitif. Et cela, selon une approche, et je vais bien insister sur ce point, qui n'a donc rien à voir avec une vision faisant de la connaissance un facteur de production indépendant du capital et du travail, c'est-à-dire un troisième facteur de production. Nous assisterons donc à la remise en cause tendancielle des formes de la division du travail, du progrès technique et de l'accumulation du capital, proprio au capitalisme issu de la première révolution industrielle, même si cette évolution ne signifie pas la fin de la recherche des voies néo-tayloristes des rationalisations du travail, y compris en ce qui concerne le travail intellectuel. C'est dans le cadre de cette mutation du rapport capital-travail qui, à mon sens, doit être interprété le processus de financiarisation de l'économie, en évitant un risque récurrent. Ce risque consiste à la tentative de réduire le processus de financiarisation et un simple renforcement du rapport de force interne entre deux fractions du capital. Le capitalisme actionnarial, dont la logique du court terme aurait imposé ses normes et remplacé en quelque sorte le bon capitalisme managérial de l'époque fordiste, soucieux, lui, de la production et de l'emploi, ainsi que du maintien d'un prétendu compromis fordiste. L'essor de la finance, tout en disposant d'une logique autonome, ne peut pas être pensé sans la rapprocher de la crise des modalités fordistes industrielles d'extraction de la plus-value. Le processus de financiarisation n'est pas seulement la cause, mais aussi et surtout la conséquence de la crise du rapport salarial fordiste et des mutations conflictuelles qui ont conduit à la montée du travail intellectuel et matériel. La financiarisation, en ce sens, traduit à mon sens la tentative du capitale, dans l'unité de ses différentes composantes, de s'adapter aux mutations qui affectent les fondements les plus essentiels de l'efficacité économique et des mécanismes d'extraction du surtravail. La transition du capitalisme industriel vers le capitalisme cognitif désigne en ce sens une trasformation majeure et globale du rapport capital-travail, dell'accumulation di capitale, des formes de la concorrence. Dans ce cadre, le contrôle, la production et l'appropriation privée des connaissances deviennent l'un des enjeux principaux de la valorisation du capital. On comprend alors très facilement les rôles clés qui, à côté de la financiarisation, joue dans le capitalisme cognitif le renforcement du système de propriété intellectuelle en tant que moyen de privatisation du savoir et du vivant et de sa transformation artificielle en marchandise et en capital. Mais avant de revenir plus en détail sur la genèse du capitalisme cognitif, je voudrais préciser quelques points méthodologiques concernant la lecture de la dynamique du capitalisme. De ce point de vue, il faut noter che notre démarche partage sur bien des aspects l'une des préoccupations qui avait été également à l'origine du programme de recherche de l'école de la régulation, mais aussi d'autres approches, comme par esempio l'approche en termes de rythme long, à savoir la nécessité, les soucis, l'exigence de définir une série de catégories intermédiaires susceptibles de rendre compte de la variabilité dans le temps et dans l'espace des lois de dynamique sociale. Sur cette base, l'approche du capitalisme cognitif a été parfois, à mon sens à tort, assimilée à une sorte de néorégulationnisme. On occulte de cette manière deux différences majeures qui caractérisent, à mon sens, la grille de lecture du capitalisme cognitif par rapport alla démarche propre à la plupart des travaux régulationnistes. La première différence est que le salariat ne peut pas être appréhendé comme une simple catégorie structurelle forgée par l'accumulation du capital, une catégorie qu'on analyse essentiellement à partir de sa cohérence avec la dynamique de la reproduction élargie du capital. Le salariat doit être aussi appréhendé à partir de son extériorité à mode de production, c'est-à-dire de son extériorité au capital, et de l'autonomie des mécanismes de la conflictualité qui forgent, au moins autant qu'ils en sont forgés, la dynamique du développement du capital. Mais encore, la dynamique de la lutte des classes est susceptible, à mon sens, de constituer, à l'intérieur même du capitalisme, des articulations, voire des prérequis, des embryons, d'un mode de production situé au-delà du capitalisme. Dans la conjoncture historique de ces 30 dernières années, cette dynamique s'est exprimée, par exemple, par deux processus clés au cœur de la crise du fordisme. Premièrement, dans l'expansion des services marchands, non marchands, du welfare state et du salaire socialisé en tant que moyen de socialisation de l'économie et d'atténuation de la contrainte monétaire au rapport salariale, c'est-à-dire atténuation des conditions qui, au sens de Marx, font de la force de travail une marchandise fictive. Deuxièmement, dans la démocratisation, quoique très partielle, du système d'enseignement, en tant qu'instrument de réappropriation collective de ce que Marx appelait les puissances intellectuelles de la production, et donc possibilité d'un dépassement de la division industrielle du capital, du capitaliste du travail. Cette approche contribue entre autres à expliquer l'importance que l'hypothèse du capitalisme cognitif a octroyée au concept du général intellect, par lequel Marx, après les étapes de la soumission formelle et de la soumission réelle, anticipe l'événement d'une économie fondée sur le rôle moteur et la diffusion du savoir. Une économie dans laquelle la loi de la valeur, fondée sur le temps de travail, entre en crise. Ce qui ne signifie point, et j'insiste bien sur ce point, qu'il disparaît, car le capital continue à la maintenir, ou du moins à essayer de la maintenir en vigueur, de manière forcée. La crise de la loi de la valeur ne signifie pas non plus que le travail ne serait plus la principale source de la création de valeur. Même si en raison de l'effritement même des frontières entre travail et non-travail, l'exploitation et le sous-travail tendent désormais à englober l'ensemble des temps sociaux qui participent à la production et à la création des valeurs captées par les entreprises. Je tiens sur ce point à faire une précision importante. En fait, certaines critiques de l'hypothèse du capitalisme cognitif, par paresse ou pour d'autres motivations, ont suggéré que nous affirmerons que le général intellect corresponderait à l'annonce prémonitoire d'un nouveau mode stabilisé de fonctionnement du capitalisme. On suggère par là que le capitalisme cognitif serait une sorte de nirvana, réalisant les projets du communisme implicite dans la vision du général intellect. Inutile de dire que rien n'est plus faux que cette vision. L'émergence historique du général intellect est en revanche interprétée, du point de vue du travail vivant, comme la nouvelle forme dans laquelle se présente l'antagonisme capital-travail. En tout cas, c'est un outil fondamental en ce sens. Je fais référence à l'opposition entre une nouvelle figure du travailleur collectif, l'intellectualité diffusa, dans le cerveau duquel, pour le dire avec Marx, il existe tous les savoirs de la société, et qui donc possède l'ensemble des prérequis d'une autodétermination de la production, d'une part, et la logique d'accumulation du capital, une logique de plus en plus parasitaire sur bien des aspects, d'autre part. La deuxième différence avec l'école de la régulation, étroitement associée à la première, concerne la périodisation du capitalisme. En fait, l'école de la régulation a inscrit son analyse historique dans le cadre d'une configuration bien particulière du capitalisme, le capitalisme industriel, dont elle a caratterisé l'évoluzione historique par le concept de mode de développement, c'est-à-dire par l'association des différents régimes d'accumulation et des modes de régulation. Dans cette approche, focalisée sur les mutations internes au capitalisme industriel et sur la cohérence des différents modes de régulation, résulte, à notre sens, deux difficultés théoriques très importantes. La première est de ne prendre pas suffisamment en compte l'importance de ce que Marx appelle le processus d'accumulation primitive du capital et sa reproduction strutturelle dans le temps et dans l'espace, reproduction che aujourd'hui trouve l'une de ses dimensions essentielles dans la tentative di privatisation du savoir et du vivant. La deuxième difficulté consiste en ce que aucune catégorie intermédiaire vient combler chez l'école de la régulation l'espace compris entre le concept de mode de production et le concept de mode de développement, désignant quant à lui une étape spécifique du capitalisme industriel. Dans cette démarche, l'hypothèse du capitalisme cognitif s'est appuyée sur l'un des enseignements majeurs livrés par l'école de l'Analef, et en particulier par Fernand Braudel, enseignement selon lequel le capitalisme dépasse en jambe la première révolution industrielle.